Voici Mathieu Beaumont.
On va parler de technologie aujourd'hui parce que vous savez, on utilise de moins en moins d'argent comptant, de plus en plus de cartes. Les technologies ont même évolué, même plus besoin de faire le code d'entrée. On fait juste taper la carte. Seriez-vous même prêt à avoir une puce sous la peau qui vous permettrait d'oublier toutes vos cartes et d'avoir toutes ces informations-là? Ça fait Black Mirror, si vous avez vu la série sur Netflix, ça ressemble beaucoup à ça. C'est une réalité qui existe. Bon, faut pas croire qu'il y a des centaines de millions de personnes qui ont cette technologie-là, qui même, on ne parle pas de dizaines de milliers de personnes. Il y en a quand même 4000 en Suède qui ont décidé volontairement de se faire insérer une puce où maintenant ils paient tout, où ils passent leurs doigts pour pouvoir être en mesure d'entrer dans l'autobus, exemple. On va aller en parler avec Stéphanie Arsenault-Bussière, qui est une Québécoise qui habite maintenant en Suède depuis 4 ans. Stéphanie Arsenault-Bussière, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous de ces 4000 Suédois maintenant avec une puce sous la peau pour éliminer vos cartes?
Absolument pas.
Mais ça existe dans votre pays quand même. C'est assez particulier.
Oui, ben je l'avais entendu parler un peu quand c'est sorti, on avait parlé un peu aux nouvelles, mais c'est pas quelque chose de fréquent encore. Là. Ça reste un peu de la science-fiction, mais bon, c'est quand même présent.
Mais je disais tout à l'heure, il y a presque plus d'argent comptant qui est transigé entre le consommateur ou même entre les personnes. Vous fonctionnez comment chez vous?
Oui. Ben, en fait, c'est beaucoup par carte, encore la carte débit, la carte de crédit, mais de plus en plus, on utilise les téléphones. C'est une application qui est d'ailleurs vraiment géniale, moi j'adore ça, ça s'appelle Swish. Puis c'est pour transférer de l'argent d'une personne à une autre, mais seulement en inscrivant le numéro de téléphone de la personne. Et là, l'argent et le montant qu'on veut transférer. Donc, ça fait que dans les marchés aux puces ou quand on n'importe quand, enfin, on peut être quelque part. Puis bon, mais un restaurant, on est en gang, ben une personne paye la facture au total, puis tout le monde switch sa partie après, ça facilite la vie de tout le monde. Oui, donc c'est simple, c'est sécuritaire, c'est pratique.
C'est le principe un peu du virement Interac que l'on connaît ici, mais qu'on utilise pas mal moins avec les commerçants, là.
Ouais, mais c'est beaucoup plus simple parce que Interac, faut quand même transférer notre compte, faut quand même avoir les données des comptes bancaires et tout ça, alors que là, c'est vraiment le numéro de téléphone seulement. Okay. Et c'est tellement répandu que même les gens qui quêtent dans les métros parfois ont une pancarte disant j'accepte Swish avec le numéro à laquelle on peut switcher parce que les gens ont plus d'argent comptant.
C'est incroyable.
Il y a beaucoup de commerces même où ça ils refusent. Ben, en fait, c'est des comptants de Fria, donc des places où ils acceptent plus l'argent. Tout se fait par carte.
C'est en train de tranquillement, pas vite, de disparaître complètement du pays.
Je dirais pas tranquillement, pas vite, je dirais quand même assez vite.
Ah oui?
C'est vraiment répandu. Oh, oui. Oui. Même les banques, on peut pas faire de dépôt. Se retrouver avec de l'argent comptant, ça devient quasiment problématique parce qu'il n'y a presque plus de banques qui les acceptent. C'est vraiment comme il faut se rendre en centre-ville, dans les banques centrales pour qu'ils acceptent l'argent.
Racontez-moi un peu la vie en Suède, parce que vous êtes là, je le disais, vous êtes marié à un Suédois depuis une vingtaine d'années, mais ça fait pas 20 ans que vous habitez là-bas, ça fait quelques années?
Non, ça fait 4 ans et demi. En fait, on avait habité à Québec une douzaine d'années. Les premières années, bon, c'était à distance, puis après ça, j'étais venue une année, puis après ça, j'étais venue. Bon, finalement, on s'est installé au Québec, puis il y a 4 ans et demi, il voulait permettre à nos enfants là, d'apprendre la langue comme il faut, puis de vivre un peu, se sentir chez elles en Suède aussi. Puis on est venu, au départ, c'est pour une année. On s'était dit qu'on essayait une année. Puis finalement, ben lui a vraiment, vraiment attrapé la piqûre. Puis professionnellement, il y a plus de possibilités pour lui ici. Donc, on est resté.
Il y a beaucoup de choses qu'on entend, puis ça a été longtemps le modèle qu'on disait, le sacro-saint modèle scandinave, le modèle suédois, le tissu social, puis il y a beaucoup de choses qui sont galvaudées aussi. Là, vous avez la comparaison entre les deux, vous êtes une Québécoise, vous habitez là-bas, vous connaissez la réalité suédoise. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent qui est peut-être le plus gros mythe qu'on galvaude sur la réalité de la culture suédoise?
Mais mythes, vous voulez dire des choses dont on parle, mais qui sont pas vraies.
Oui, mais qu'on parle, mettons, ici au Québec, qu'on citait en disant mais le modèle suédois, il fait ci, ils font ça, l'éducation coûte rien, et ce genre de choses-là. Là.
Mais c'est vrai que l'éducation, c'est quand même extraordinaire quand on arrive ici et que tu te rends compte que les gens, les étudiants reçoivent une allocation tant qu'ils sont étudiants. Donc, quand ils vont à l'université, non seulement ils n'ont pas de frais de scolarité à payer, mais ils reçoivent une allocation. Donc, le gouvernement soutient les étudiants pour pendant 6 ans. Je pense qu'il y a une période de 6 ans où est-ce qu'ils ont un soutien financier. Après ça, les écoles sont, les repas sont servis. Des repas, là, quand je parle des repas, c'est des repas très élaborés, santé et variés, donc avec les choix de viande, de poisson, options végétariennes, options sans gluten, de toutes les options possibles. C'est payé par les taxes, évidemment, mais ça rend l'éducation est vraiment priorisée par l'ensemble de la société, la vie familiale aussi. C'était vraiment une belle surprise parce qu'on avait encore des jeunes enfants. Quand on est déménagé ici, notre plus jeune avait 8 ans. On a 3 enfants. Notre plus jeune avait 8 ans. Non, avait 6 ans, c'est ça. Et on avait jusqu'à 8 ans pour prendre des congés parentaux. Ils ont calculé combien de congés on avait eu au Québec. Et mon conjoint, évidemment, on avait pris moins parce que c'est moi qui avais pris mon année de congé maternel. Il lui restait 190 jours à prendre avant que notre plus jeune atteigne 8 ans. Mais on n'a pas le droit de prendre les journées quand ils sont à l'école. Donc, ça devenait comme les étés, les fins de semaine, parce que les fins de semaine comptent. Quand eux, on parle d'une année ou deux de congés de maternité, de congés parentaux, ils comptent les fins de semaine. Mais si, comme couple, vous décidez de ne pas prendre, de ne pas être payé les fins de semaine, vous pouvez étirer à ce moment-là. Vous pouvez commencer à travailler à temps partiel puis prendre quelques journées pour rester à la maison avec votre enfant. Donc, c'est vraiment un système qui priorise la famille, qui priorise les enfants, la qualité de vie. En tout cas, oui, il y a le mythe, mais je n'avais pas compris à quel point il était plus généreux que je pensais. Oui. Le système est extrêmement, j'appelle ça généreux, mais oui.
Racontez-moi un peu, parce que votre conjoint est suédois, bien entendu. Forcément, vous avez appris la langue avec le temps. Pas facile d'apprendre le suédois, n'est-ce pas?
Ça paraît pire que c'est une langue. À partir du moment où vous connaissez l'anglais,
oui. Je
dirais que c'est quand même, serait-ce que c'est dans la même famille, c'est une langue germanique. Mm-hmm. Puis une fois qu'on passe par-dessus là, les deux, trois choses de la grammaire qui sont un peu plus complexes, ça reste quand même une langue qui s'apprend vite, qui est assez simple. Rapidement, on peut comprendre. Ils vont prendre des mots, par exemple, plutôt que d'avoir un mot différent pour mitaine, ils vont mettre le mot main avec soulier ensemble, donc handske. Qui est un ancien mot pour soulier qui est secou, maintenant. Donc, ça devient comme une soulier pour la main, ça devient mitaine. Donc, à un moment donné, ils mettent des mots ensemble, puis c'est ça fait qu'on peut comprendre assez vite la langue. Donc, c'est pas une langue qui est très difficile à apprendre. Donc.
Mis à part peut-être dans la sonorité, moi, ce que j'avais trouvé un peu plus complexe pour avoir visité votre pays, c'est, on a tendance à lire ce que l'on voit, mais la prononciation et la lecture des mots, la façon dont ils sont écrits, des fois, il peut y avoir de très grandes différences et vous pouvez faire rire l'auditoire assez rapidement aussi. Là.
Oui, tout à fait. Il y a quelques sons là, qui sont vraiment, plus difficiles là, quand on ne les maîtrise pas. Là, le « hu », qui est le « hu », par exemple, la lettre, pas la lettre, mais le chiffre 7 va être « hu », qui s'écrit « s-j-u ».
Oui.
Mais là, le même son peut s'écrire TJK, TJK. En fait, il y a tout plein de possibilités.
Une chance que vous avez dit que c'était simple.
Oui, non, mais ça c'est comme une des difficultés.
Oui.
Mais j'enseigne le français à des Suédois, puis faut quand même avouer que le français est beaucoup plus difficile au niveau de la prononciation versus l'écriture. Donc, les Suédois ont quand même l'impression qu'ils prononcent comme ce qui est écrit.
Comment vous avez trouvé votre adaptation là-bas? Est-ce que ça a été facile ou ça a été difficile?
Pour être honnête, j'ai pas trouvé ça très facile parce que même si on est quand même des sociétés qui se ressemblent, des valeurs qui se ressemblent beaucoup, on n'est pas dépaysé quand on arrive en Suède.
Pas vraiment, non.
Au niveau des contacts sociaux, c'est pas le Québec. Je veux dire, au Québec, on est habitué quand même d'être spontané, on est ouvert, on aime ça avoir de la visite surprise, on aime ça recevoir le monde, on aime ça les folies, j'ai l'impression. En tout cas, il y a comme quelque chose où on aime, là, je généralise évidemment, là, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de de facilité, de contact à l'autre, un désir de connaître l'autre, un désir de rentrer en contact avec l'autre en posant des questions, en s'intéressant à l'autre. En Suède, il y a un respect de l'individualité qui est très, très grand. Donc, les gens vont rarement rentrer dans votre intimité. Donc, ils ne poseront pas beaucoup de questions parce qu'ils vont sentir que c'est peut-être plus impoli, parce que tu n'as peut-être pas envie de répondre ou de t'ouvrir tant que ça. Donc, il y a une espèce de réserve. Il y a une gentillesse polie, juste assez grande. Les gens, quand on vient, souvent, on va dire, mais tout le monde est gentil, oui. Mais c'est très difficile. Souvent, entre les expats, les immigrants qui sont ici, une des premières questions qu'on entend, c'est « As-tu réussi à te faire des amis? »
Ah oui.
Parce que c'est les gens vont planifier. D'abord, de rentrer chez quelqu'un en surprise, cogner à la porte sans avoir été planifié une semaine ou deux à l'avance, c'est perçu plus comme impoli parce que les gens aiment, quand ils reçoivent le potluck spontané, sympathique où on fait tout ensemble, puis on fait la cuisine ensemble, puis on fait la vaisselle ensemble. Ben, je l'ai pas vu ici beaucoup. En fait, je l'ai pas vu du tout. Les gens vont se recevoir vraiment comme il faut. Donc, ils reçoivent, ils préparent la nourriture de A à Z et l'invité ne lève pas le petit doigt. Donc, ça fait que tout ça a besoin d'être de plus de planification. Donc, toutes les rencontres sociales sont beaucoup plus planifiées. Ça. Oui, c'est
peut-être l'adaptation, le bout d'adaptation le plus difficile. Vous m'avez dit, avant qu'on commence l'entrevue, vous m'avez dit que vous vous ennuyez de la neige, vous ennuyez de l'hiver.
Oui, le vrai hiver québécois, ce que vous avez en ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Je sais pas comment c'est à Montréal, mais j'ai qu'à Québec, il y a beaucoup de neige. Ça me manque beaucoup parce que, bon, là, c'est sûr, je suis à Stockholm. Je pense qu'il faudrait que j'aille plus vers le nord, deux, trois heures d'auto vers le nord, puis j'aurais un peu plus de neige. Mais Stockholm, c'est un climat qui est plus maritime, du fait qu'on est proche de la mer Baltique. Donc, on est toujours aux alentours de zéro. Donc, moins un, deux. Donc, il neige, puis il neige un centimètre ou deux, puis après ça, il va pleuvoir, puis ça va geler. Donc, on va avoir un fond de glace. Après ça, il va neiger un petit peu, mais c'est jamais... c'est très rare, très, très rare qu'on a, je dirais, 20 centimètres de neige. Là, ça, c'est assez rare quand même. Donc, ça fait des excellentes patinoires sur les lacs. Il y a énormément de lacs. Donc, ça fait des belles patinoires parce que, justement, il n'y a pas une grosse épaisseur de neige. Mais moi, qui étais une amatrice de ski de fond, je m'ennuie du ski de fond. Je m'ennuie des tempêtes de neige où tout est fermé. Je m'ennuie de la neige folle où est-ce que tout le monde est dehors en même temps en train de pelleter. Oui, ça me manque beaucoup.
Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Stéphanie Arsenault-Bussière. C'est très gentil.
Ça me fait plaisir.
Et ce fut un grand plaisir de pouvoir connaître un peu plus votre réalité là-bas. Et comme on vous dit chez vous, tac!
Varsågod!
Au revoir, à la prochaine!
Au revoir!
Stéphanie Arsenault-Bussière est une Québécoise qui habite à Stockholm. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 7h samedi. Bye-bye!